À voix nue. Cette semaine, Emmanuel Laurentin s'entretient avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Aujourd'hui, deuxième volet, la levée des barrières disciplinaires.
Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant, nous nous retrouvons donc pour cette discussion sur votre itinéraire intellectuel et historien à tous les deux, à l'occasion, je le répète, donc de vos anniversaires respectifs, 80 ans pour l'un et 90 ans pour l'autre. Cette deuxième émission va tourner autour de la question des sciences de l'homme. Je pense que l'un comme l'autre, vous avez toujours considéré que vous travailliez sur l'homme, en reprenant le terme de Marc Bloch, que vous citiez hier pour terminer notre émission, Jacques Le Goff, l'homme est le gibier de l'historien, mais également lorsque vous écrivez, Jean-Pierre Vernant, dans L'homme grec, nous recherchons l'homme lui-même, cet homme grec ancien, qu'on ne peut séparer de son cadre, dont il est à la fois le créateur et le produit. Alors je voudrais qu'on tourne autour de ces questions-là, puis peut-être également développer cette idée de ces sciences de l'homme qui se développaient considérablement dans l'immédiate après-guerre dont nous avons parlé hier, aussi bien donc à la sixième section qu'à d'autres endroits de recherche comme au CNRS, et des influences que vous avez pu subir d'autres disciplines, en particulier de l'anthropologie. Jean-Pierre Vernant, vous avez cité donc le cas de votre maître Ignaz Meyerson, de Louis Gernet. On pourrait rajouter Lévi-Strauss, évidemment, dans ce paysage.
Je l'ai admiré, je l'ai lu, je me suis inspiré de sa façon de travailler. Mais, comment dirais-je, moi j'avais une conception, j'ai gardé une conception, qu'il y a une histoire de l'homme intérieur, que ça se fabrique. Il faut bien voir qu'en France, à mon avis, les sciences de l'homme ont été initié et influencé fortement par la linguistique. C'est la linguistique qui a essayé de faire de ce qui était de l'à peu près une science au sens propre du terme. Lévi-Strauss en particulier, bien entendu, a été très influencé par la linguistique, et que dans son analyse des mythes, et c'est ça que j'ai retenu, il essaye de montrer que c'est pas des histoires foutues n'importe comment, c'est pas de l'à peu près, pas plus que le langage, qu'il s'agit de trouver les moyens de mettre en lumière des structures qui sont pas des structures logiques comme on trouve dans la science, mais qui sont des structures d'organisation.
Des structures qui commandent l'ordre du récit, dites-vous.
Des structures qui commandent l'ordre. Il y a un ordre du récit. Un conte, ça se développe avec un point de départ, un point d'arrivée. Et quand on regarde ça dans le détail et qu'on prend d'autres contes du même type, on voit qu'il y a une architecture intellectuelle. Et Lévi-Strauss, beaucoup plus que moi et beaucoup plus que Meyerson, mon maître, a l'idée qu'au fond, on peut arriver à trouver derrière les mythes de tous les pays une espèce de logique du concret, de logique du sensible, qui n'est pas la logique du principe d'identité, qui est la logique sensorielle, si j'ose dire, et que, à mes yeux, d'une certaine façon, c'est un peu du kantisme, il y a des règles a priori de l'intelligence avant qu'elles soient entièrement
développées. C'est un peu trop globalisant pour vous, c'est ce que vous voulez
c'est
dire.
C'est pas globalisant, ça trop, à la fois. Je ne suis pas sûr qu'on puisse passer, sans beaucoup de précautions, des mythes grecs à des mythes africains ou à des
Amérindiens.
Et je ne suis pas certain non plus qu'on puisse explorer l'intelligence humaine dans son fonctionnement sans faire intervenir l'idée qu'il y a des changements, qu'il y a des seuils, qu'il y a des ruptures, qu'il y a des modifications dans la logique, dans la science, dans la sensibilité. Et par conséquent, que la psychologie est historique.
Oui.
Jacques Le Goff.
Bien entendu, Jean-Pierre Vernant vient de prononcer le mot qui indique que nous sommes encore d'accord. mais avant de revenir...
C'est le mot rupture.
Historique. Avant de revenir sur Lévi-Strauss, dont j'ai bien entendu subi l'influence, et moi aussi, je suis dans un mélange d'admiration pour ce grand intellectuel, ce grand savant, et de réserves que je dirais qui vont rejoindre celles de Jean-Pierre Vernant. Mais, si vous le permettez, je voudrais partir, car en ce qui me concerne, ça a été capital, d'un petit peu plus loin. J'arrivais donc comme historien. Et là, c'est une différence avec Jean-Pierre Vernant. Je m'affirmais dès le début de ma carrière comme appartenant au milieu des historiens. Et ce que Braudel, Lombard, les Annales m'apprenaient, c'est qu'il y avait une façon nouvelle de faire l'histoire. Et un des caractères de cette nouvelle histoire, c'était de dialoguer, de faire si possible de l'interdisciplinarité avec les autres sciences. Vous avez vous-même prononcé le terme de science de l'homme. Oui, mais aussi science sociale.
Science de l'homme et de la société.
Et de la société. Oui, parce que ce qui nous intéresse tous les deux, c'est l'homme en société. Marc Bloch l'avait déjà affirmé avec force. Alors, quelles étaient ces autres sciences sœurs, si j'ose dire, et avec lesquelles il fallait établir des mariages pour que ça devienne fécond? Il y avait l'économie. L'économie, ce qui peut paraître aujourd'hui un peu bizarre, mais il y avait l'économie et les économistes ont joué un rôle important dans ce renouvellement de l'histoire.
À une époque, d'ailleurs, je crois, les Annales sous-titre Économie, Sciences et Sociétés.
Il y avait évidemment la linguistique, dont Vernant vient de parler. Il y avait peut-être surtout la sociologie.
Oui.
La sociologie, il restait, me semble-t-il, parmi ces sciences sœurs, une science qui n'avait pas été très mise à contribution, avec laquelle ni Lucien Febvre ni Fernand Braudel, qui était à ce moment-là le patron des Annales, n'avaient établi de véritable dialogue, et c'était précisément l'anthropologie. Alors, comme avec plusieurs autres historiens qui regardaient un peu dans cette direction, il a fallu d'abord, je dirais, que nous nous mettions un peu au clair sur des questions de vocabulaire qui sont des questions importantes. Le vocabulaire, en général, recouvre des enjeux importants. Parce que nous étions pris entre anthropologie et ethnologie. Ethnologie, d'une certaine façon, nous plaisait davantage. Parce que nous y voyons la diversité, nous y voyons l'autre, qui est aussi une des visées, je crois, de l'historien nouveau. Mais, par ailleurs, nous regrettions que l'ethnologie se confonde parfois plus ou moins avec de vieilles méthodes comme celle du folklore, se perdent un peu dans l'anecdotique et oublient ce qui était si important pour nous, qui était précisément l'homme. Par conséquent, nous avons finalement adopté anthropologie et nous avons décidé de nous placer sous la bannière de l'anthropologie historique. Je me souviens d'une année, je ne saurais pas dire laquelle, je pense que c'est le début des années 70, où l'affiche de la 6e section, qui était en train de devenir l'école des hautes études en sciences sociales actuelles, il y a eu un profond remaniement du titre des cours et des séminaires, et presque partout, le terme anthropologie historique est apparu d'une façon peut-être un peu comme...
comme une mode.
Comme une mode. Comme une mode.
Oui, oui.
Jean-Pierre Vernant.
Mais, je crois, il me semble qu'il y a eu, dans ces années-là, un débat entre histoire, anthropologie, sociologie, psychologie. Ce débat, il était un peu ancien, mais il s'est posé en termes nouveaux, et il y a eu toute une série d'échos. Il y a, alors, vis-à-vis de Lévi-Strauss, il y a eu de longues discussions avec... Il y avait le temps long de Brodel, et Lévi-Strauss s'est expliqué. Il a dit, mais pas du tout, moi je n'ai jamais déclaré qu'il n'y avait pas de temporalité. J'ai distingué les civilisations froides et les civilisations chaudes, c'est-à-dire les civilisations qui ont choisi le changement et les civilisations qui refusent, qui bloquent les changements. Mais... Autrement, elles sont dans des temps différents, mais il y a toujours du temps. Et il y a eu toute une série de textes de Lévi-Strauss où il est revenu sur un plan théorique pour expliquer que pas du tout.
Pour se rapprocher d'une certaine façon.
Mais en réalité, les problèmes ne sont pas tranchés, Dieu soit loué. Les problèmes ne sont pas tranchés. Et en effet, quel type de temporalité ? Là, bon, Hartog a travaillé aussi un peu sur ces points.
François Hartog.
Mais il y a des temporalités multiples. Et en tout cas, pour ma part, si je regarde un peu ce que j'ai fait, il est bien sûr qu'un des éléments essentiels a été de voir comment on pouvait, dans la ligne de Jernet, absolument en suivant Jernet, comment on pouvait passer de forme de pensée, de sensibilité, de comportement, d'être au monde archaïque, dans les mondes grecs, à quelque chose qui est le monde de la cité, le monde de la monnaie, le monde où il y a déjà de l'économie, et où surtout où il y a la politique. C'est ça que j'ai voulu faire, donc alors, le temps est là.
Pour moi, c'est là, ce moment-là aussi, est arrivé, si j'ose dire, Lévi-Strauss. Je passe sur le charme des idées du style de Lévi-Strauss. Triste Tropique est un livre fabuleux, du point de vue aussi littéraire. Ce que, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Vernant, Lévi-Strauss, à qui j'ajouterai tout de suite un autre savant qui a eu sur moi une influence peut-être encore plus grande, Georges Dumézil. C'est qu'il nous apportait des concepts et des méthodes pour trouver dans les civilisations qui nous intéressaient, qui apparaissaient un peu comme des fouillis, les moyens d'une cohérence. J'ai eu très tôt, et grâce à eux, en grande partie, le sentiment que, quand je disais la civilisation médiévale, c'était véritablement une civilisation. C'était quelque chose qui était, je reprends aussi un mot de Jean-Pierre Vernant, qui était structuré, qui avait une architecture. Alors, je prends deux exemples. En ce qui concerne Lévi-Strauss, un de ses moyens d'opérer resté plus ou moins célèbre, c'est l'opposition entre le cru et le cuit. Et c'est justement à cette occasion que j'ai écrit un article avec Pierre Vidal-Naquet, où nous avons essayé de montrer que cette analyse par le cru et le cuit fonctionnait très bien, d'un côté dans la Grèce antique et en ce qui me concernait, dans l'Occident médiéval. Georges Dumézil, qui était venu de la linguistique et de l'histoire comparée des religions, nous avait, à moi en particulier, légué, je l'ai assez bien connu et fréquenté, une notion qui a été pour moi extrêmement utile. C'est l'idée que les sociétés occidentales avaient été fortement marquées par des origines indo-européennes et que, en particulier, cette idéologie privilégiait un système de structure de la société en trois fonctions.
La tripartition fonctionnelle.
La tripartition fonctionnelle, et je me suis aperçu, et je crois avoir été avec l'historien de la littérature Jean Batany le premier à l'avoir remarqué. Très tôt, nous avons été rejoints par Georges Duby, l'importance que ça avait pour analyser la société médiévale. Mais Georges Dumézil, je peux en témoigner. Georges Dumézil n'était pas un structuraliste abstrait. Il pensait que le système indo-européen s'était répandu par diffusion et en se transformant au cours de l'histoire. Tandis que, comme l'a bien dit Jean-Pierre Vernant, Lévi-Strauss, bien entendu, s'est beaucoup défendu de proposer un système ahistorique, sans histoire. Et il est vrai que on peut ainsi interpréter l'opposition entre société froide et société chaude, encore que personnellement, je trouve qu'elles sont toutes plus ou moins chaudes, qu'il n'y a pas de société froide.
Vous êtes un adepte de l'idée que maintenant. L'histoire est mouvement et que...
Toute société est historique, c'est dans un certain contexte historique, politique et intellectuel qu'on a parlé de société froide, parce qu'en fait, ça recouvre, à mon avis, l'image que l'on avait, que l'on voulait donner des sociétés colonialisées. C'était un arrêt de l'histoire dans ces sociétés qui n'était pas un arrêt, à mon avis, réel, mais qui avait été apporté par la colonisation. J'ai discuté, très respectueusement, bien sûr, de Lévi-Strauss, et je sais que je l'avais un peu agacé, mais il ne m'avait pas donné d'argument vraiment solide quand je lui ai dit, au fond, pour vous, l'histoire, c'est une empêcheuse de tourner en rond. S'il n'y avait pas d'histoire, ça fonctionnerait tellement bien. Les sociétés dans les structures que vous leur donnez. Et il y a bien des transformations dans les sociétés lévi-straussiennes. Mais ces transformations sont des transformations justement d'ordre structurel, je dirais presque abstrait. Et là, il y a une limite très importante. D'ailleurs, je tiens à rappeler, dans une perspective historique, que quand Fernand Braudel a publié dans les Annales, en 1958, son célèbre article sur la longue durée, ça a été explicitement pour contrer Lévi-Strauss.
Bien sûr, bien sûr.
Il admirait beaucoup Lévi-Strauss, lui aussi, mais il voyait en quelque sorte les ravages que Lévi-Strauss exerçait sur les jeunes esprits, y compris les jeunes historiens, où il arrêtait le temps, malgré tout. Et il a donc voulu montrer qu'il y avait non jamais arrêt du temps, mais qu'il y avait une histoire longue dont on pouvait penser qu'elle était du temps arrêté, mais qu'elle ne l'était pas. Et là, Lévi-Strauss a pris au piège quelqu'un qui est par ailleurs un des grands historiens du renouvellement, qui est Emmanuel Leroy-Ladurie, qui un jour a parlé de l'histoire immobile. Ce qui a fait bondir, je dois dire, Fernand Braudel.
Jean-Pierre Vernon, Jacques Le Goff vient d'évoquer un autre nom que celui de Lévi-Strauss, autour duquel nous tournons depuis le début de cette émission. C'est celui de Georges Dumézil. Est-ce que, aussi, la question de la tripartition fonctionnelle, est-ce que la question de l'influence de Dumézil sur
Dumézil,
la
société... Dumézil, je le considère comme un de mes maîtres. J'ai fait dans le journal de psychologie... Je faisais les comptes rendus de la plupart des ouvrages de Dumézil et j'allais lui montrer mes comptes rendus. Et c'est Dumézil qui un beau jour, comme j'avais été lui monter un papier, que je descendais l'escalier, m'a dit « Monsieur Vernon, est-ce que vous avez pensé au collège ?» J'avais jamais pensé au collège.
Collège de France.
Je lui ai dit « Non. Ouais. » On y a pensé pour vous, allez voir Lévi-Strauss. Bon, donc j'ai vu Lévi-Strauss et c'est Lévi-Strauss qui m'a présenté. Alors Dumézil, d'une certaine façon, par le fait qu'il prenait des civilisations déjà relativement avancées, des systèmes religieux complexes, il était plus utile pour moi. Avec le fait que les Grecs, le système... de tripartition fonctionnelle ne marche pas.
Non.
Et que Dumézil, qui au début avait cru que peut-être on pouvait aussi l'appliquer à la Grèce, qui sont les Indo-Européens, ben, il s'est aperçu que ça ne collait pas. Donc, je dirais volontiers que c'était d'autant plus important pour moi que c'était un système qui était un idéal de cohérence en montrant que l'Inde védique, l'Iran, les Germains, les Celtes, les Romains, on pouvait arriver, et il arrivait très bien, avec précision, à montrer qu'il y avait une espèce d'architecture commune. Mais avec deux choses. Lui-même, comme le disait Le Goff, il montrait comment ça avait changé, Par exemple, comment dans les pays où il n'y avait pas une classe sacerdotale qui conservait intact ce schéma, alors on ne retrouvait plus le même schéma, mais on pouvait voir comment c'était passé. Et ensuite, c'était merveilleusement intéressant parce que ça ne collait pas. Et que c'est toujours intéressant.
C'était ce qu'on appelait l'hommage qui vous a été rendu par vos élèves et vos pères en 87, Poi qu'il y a la diversité. Et ça colle bien avec votre idée, c'est l'idée de la liberté de penser.
C'est pas une diversité n'importe quoi. Pourquoi les Grecs qui sont des Indo-Européens, pourquoi ils vont faire un système qui sera très différent au point de vue religieux? On ne peut pas comprendre pourquoi les Grecs ont inventé le politique, la cité, si on ne voit pas que, justement, ils avaient déjà rencontré, sur leur passage, des peuples, tous les peuples de la Méditerranée, de l'Orient, de l'Afrique même, et qu'ils s'étaient imbibés de cela, et que la structure religieuse, un peu rigide, qu'on trouve ailleurs, comme en Inde, avec les trois classes, ça n'existait plus. Ils ont donc réinventé quelque chose. Et je crois que ce qu'ils ont réinventé, c'est la police.
Jacques Le Goff.
Dumézil l'avait parfaitement reconnu.
Tout à fait.
Et je dois dire une chose aussi qui m'impressionnait, c'était la façon dont, tout en montrant que le système indo-européen avait connu une large diffusion, cette diffusion avait eu des limites, des frontières. Je me rappelle aussi comment un savant historien des religions britanniques, ayant cherché à démontrer, en se servant de Dumézil, que le trifonctionnalisme existait dans la Bible, en particulier par une analyse très biaisée des trois fils de Noé, Dumézil a fait de cet article un éreintement extraordinaire et qui reste pour moi, je l'ai toujours pas loin de moi, un objet de délectation, je dois dire.
Et il a pris la même attitude à l'égard d'un certain nombre de savants. Il y avait un japonais et qui montrait que toute la mythologie japonaise était...
Le japonais, oui. Qui s'était infiltré dans les annales.
Bien sûr.
Un japonais qui s'infiltre dans les annales.
Il a été à Paris pendant longtemps. Il allait chez Dumézil, il allait chez moi aussi. Et Dumézil, je lui ai dit, mais écoutez, si ça marche partout, c'est que c'est pas vrai. Si on peut montrer chaque fois qu'on n'importe où qu'il y a un système trifonctionnel, alors il y en a plus, c'est fini. C'est dans la mesure où c'est limité que ça a une valeur probatoire.
C'était à voix nue. Emmanuel Laurentin s'entretenait avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Équipe de réalisation, Jean-Marie Charon, Pierrette Perronneau. Demain, travail et technique.